Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Il y a peu de temps, nous avons vu que le Christ s'était dépouillé de sa divinité, de sa gloire, de sa vie éternelle, afin de mourir pour toute l'humanité. En effet, il était devenu un simple homme composé de sang et de chair, et devenant ainsi sujet à la mort, car aucun être spirituel, quel qu'il soit, ne peut mourir. C'est ce que l'apôtre Paul confirme en nous expliquant que le Christ était Dieu, de condition divine, mais il ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité, il a laissé de côté sa puissance et sa gloire pour devenir semblable aux hommes. Jésus-Christ n'a adopté qu'une seule fois cette nature humaine. Il naquit dans la chair lorsque vint pour lui le moment de mourir pour l'humanité. Avant cela, lorsqu'il s'était présenté à nos premiers parents, à Abraham, à Moïse, il était un être spirituel qui prenait l'apparence d'un homme, mais non la nature humaine. C'est exactement ce que feront tous ceux qui participeront à la première résurrection et qui entreront dans la famille divine, dans le royaume. Ils pourront prendre une forme humaine comparable à celle qu'ils possédaient ou éventuellement une autre. C'est ainsi que les disciples et Marie de Magdala ne reconnurent pas immédiatement Jésus lorsqu'il leur apparut après sa résurrection. La naissance de Jésus fut un véritable miracle. Il fut engendré dans le sein de Marie, non par une semence humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Luc donne des détails sur cette conception. Luc était médecin. Voilà sans doute pourquoi il donna plus de détails à ce sujet que les autres. Luc était un homme très éduqué et il aborda ce sujet en éliminant les demi-vérités et les mythes. Il rédigea son évangile pour un nommé Théophile, probablement un personnage officiel important, grec ou romain. Luc a vérifié ses sources avec grand soin. Il a interrogé de nombreux témoins avant de rédiger l'évangile. Il écrit: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Après cette introduction, son récit relate la déclaration faite à Zacharie, sacrificateur de la classe d'Abia, confirmant que sa femme Élisabeth lui enfanterait un fils. Tous deux étaient avancés en âge et Élisabeth était stérile. Deux bonnes raisons pour ne plus avoir d'enfants. C'est l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, qui leur fit cette annonce. Plus tard, au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange est envoyé auprès de Marie. Il lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Or, Marie était vierge, et ceci nous est confirmé par Luc, qui, étant médecin, sait ce que cela implique. Luc écrit: « Au sixième mois, mais au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » Marie elle-même confirme ce fait. Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » Selon certaines versions, « puisque je n'ai point de mari. » L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, voici une phrase importante. Dieu accomplit des miracles. Il est le Créateur qui a établi les lois de la nature. Mais le Créateur est au-dessus des lois qu'il a créées et il peut les modifier quand cela lui plaît. Normalement, une naissance n'est plus possible après la ménopause. Mais cela arriva à deux reprises dans le récit biblique. La première fois, ce fut pour Abraham et Sarah. Dans le récit de leur histoire, nous trouvons cette petite phrase « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Mettre un enfant dans le sein d'une vierge n'est pas plus difficile pour Dieu que de ressusciter Jésus-Christ ou de créer le premier homme de la poussière de la terre ou encore de former Ève à partir d'une côte d'Adam. À votre avis, quel est le miracle le plus difficile pour Dieu? Dieu a créé les cieux et la terre, et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les cieux n'a pas été fait de choses visibles. Par nature, ce qui est visible n'est pas éternel. Quel est le plus grand miracle? Quelle est la chose impossible pour Dieu? Pour Dieu, rien n'est impossible. Il a ressuscité Lazare alors que son corps dégageait déjà une odeur désagréable. Il donnera la vie immortelle aux êtres que nous sommes. Il rappellera à la vie les atomisés d'Hiroshima. Il en fera autant pour les victimes du génocide des Khmers Rouges, du génocide du Rwanda et pour tous les morts, même pour ceux qui, depuis des siècles, sont retournés à la poussière. Pour que son fils puisse naître conformément aux prophéties, Dieu a accompli de multiples miracles destinés à prouver qu'il s'agissait bien du Messie annoncé. L'Ancien Testament avait prophétisé que Jésus serait un descendant de David. Dieu s'assura que Marie soit de la descendance de David, et pour qu'il n'y ait aucune contestation, il s'assura que Joseph, le père nourricier de Jésus, soit lui aussi de la descendance de David. Jésus devait naître dans Bethléem, la cité de David. Comment Dieu allait-il s'y prendre pour déplacer cette famille depuis son foyer situé à Nazareth jusqu'à Bethléem? Tout comme il avait influencé Cyrus, roi de Perse, pour qu'il permette aux Juifs de rentrer à Jérusalem afin de reconstruire le temple, Dieu influença le plus grand souverain de l'époque précédant la naissance du Christ, César Auguste, qui ordonna un recensement de tous les territoires sous sa domination. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Cet édit obligea chaque noble, chaque sénateur, chaque habitant à se déplacer. C'est ainsi que Marie et Joseph se retrouvèrent à Bethléem, leur ville d'origine, pour la naissance du Christ. Mais cette naissance ne suffisait pas. Encore fallait-il la faire connaître. Voyons comment Dieu s'y prend. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » L'intérêt de ces bergers est piqué au vif. Ils veulent absolument voir leur Sauveur, leur Messie. Luc raconte que ces bergers se trouvaient dans cette même contrée, à quelque distance. L'ange leur avait dit « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Le recensement ordonné par César Auguste a saturé l'hôtellerie, et parce qu'ils n'ont pas trouvé de place, Joseph et Marie prennent le premier abri disponible. Marie était sur le point d'accoucher, et c'est ainsi que Jésus se retrouva dans une crèche. Le mot « crèche », traduit du grec « fatné », a le sens de « mangeoire », « d'étable ». Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » En disant « Allons jusqu'à Bethléem », les bergers indiquent qu'ils se trouvent à une certaine distance de la ville. Ceci aurait pu être traduit par « Allons aussi loin que Bethléem ». La distance qu'ils doivent parcourir et le fait que l'ange ne leur a donné aucune adresse les oblige à se renseigner. Ils questionnent, ils suscitent la curiosité et attire sans le vouloir l'attention des gens sur la naissance d'un sauveur et par la même occasion, il diffuse le message de l'ange. Luc ajoute, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Si Jésus avait vu le jour dans un hôtel, l'hôtelier leur aurait interdit l'entrée de l'établissement en leur recommandant de laisser ses clients en paix. En racontant ce que l'ange leur avait dit, les bergers annoncèrent la naissance du Christ à de nombreuses personnes. Dieu avait donc fait en sorte que l'annonce de cette naissance se répande dans les territoires de la Judée, sans oublier que de nombreuses personnes étaient là, à Bethléem, pour le recensement et retourneraient chez elles en répétant ce qu'elles avaient vu ou ce qu'elles avaient entendu. Retrouvons maintenant Jésus à l'âge de 12 ans. Ses parents étaient descendus de Nazareth à Jérusalem pour observer la Pâque, et sur le chemin du retour, ils se rendirent compte que l'enfant n'était pas là. Il était resté à Jérusalem pour discuter avec les docteurs de la loi. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Joseph était son père nourricier. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Ici, Jésus mentionne son véritable Père céleste. Jésus n'a que 12 ans, mais il sait qui il est. Il est certain qu'il devait se souvenir du personnage qu'il avait été avant d'abandonner sa divinité. Il devait se rappeler la gloire qui avait été la sienne. Jésus connaissait son identité antérieure. Il savait qui il était, qui était son véritable Père, celui qui l'avait engendré. Et puisqu'il discutait avec les docteurs de la loi, c'est qu'il connaissait cette loi et pour cause. C'est lui qui l'avait révélée à Adam, au patriarche, et qui l'avait énoncée du haut de la montagne du Sinaï plus tard. La connaissance de ce qu'il avait été lui permit, avec l'aide du Saint-Esprit de son Père, d'affronter Satan et de l'emporter sur lui au cours des 40 jours mentionnés dans le 4e chapitre de l'Évangile de Luc. Jésus eut sans cesse des choix à faire au cours de la vie qu'il passa sur cette terre. Il fut testé, éprouvé, et cela a un sens négatif et un sens positif. Si Dieu teste l'homme par l'épreuve, celui-ci peut répondre positivement ou négativement. Si Dieu permet à Satan de tenter l'homme, c'est parce qu'il veut éprouver sa fidélité à sa parole, tester son obéissance et son désir de lui être agréable. Mais c'est pour l'homme une question de choix, un choix qui sera positif ou négatif. C'est cela, avoir un choix. Satan, avec le Christ, pouvait faire le mauvais choix. Dans le cas contraire, il n'aurait pas essayé de le tenter. Il aurait perdu son temps. Mais notre Sauveur a toujours fait le bon choix. Il n'a jamais permis à la tentation de s'ancrer dans son esprit. Il ne s'est pas laissé attirer et amorcer par la convoitise qui lui était suggérée par Satan. Il n'a jamais transgressé la loi.